Bonjour et merci de nous être fidèles jusqu'à 14h. C'est le grand face-à-face de France Inter avec au sommaire de l'émission ce dimanche. Le retour sur l'actualité de la semaine avec le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis vers 13h30, les élites en question. Elles sont pointées du doigt, critiquées et même souvent haïes. C'est même devenu un lieu commun du débat public. Alors la France a-t-elle un problème avec ses élites? Nous ouvrirons le débat avec notre invité Alain Minc. Rendez-vous avec lui dans une quinzaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face, Ali Badou.
Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va directement commencer ce duel avec ce qui vous a marqué Natacha cette semaine, à savoir l'intervention de Marlène Schiappa dans les débats autour de l'affaire Alexia Daval. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes était à l'étranger mais elle a tenu à s'exprimer et elle l'a fait au téléphone auprès de nos confrères d'RTL.
Nous dire qu'elle a une personnalité écrasante et c'est pour cela qu'elle aurait été assassinée, je trouve ça proprement scandaleux. Moi, je pense à toutes les femmes qui vivent actuellement des violences conjugales, qui vont entendre ça et qui vont se dire « Ah, bah peut-être que je mérite d'être frappée ». À des hommes qui frappent leurs femmes, qui vont entendre ça et qui vont se dire « Ah, bah voilà, ah bah il est défendu, moi aussi, ma femme, elle m'écrase, elle m'humilie, je me sens pas à la hauteur, donc je vais la frapper ». Et en disant ça, on légitime les féminicides, il y a toujours une bonne excuse, ça suffit.
Marlène Schiappa, mercredi dernier, pourquoi cette intervention, Natacha?
Pourquoi cette intervention? Oui, sans doute parce qu'il
pourquoi
y a aujourd'hui...
Pourquoi a-t-elle retenu votre attention?
Pourquoi a-t-elle retenu mon attention? Elle a retenu l'attention de beaucoup de monde, en fait, et elle a gêné beaucoup de monde parce qu'elle est profondément gênante. Dans la mesure où il s'agit là d'une prise de position sur la défense d'un accusé qui risque la perpétuité et d'un accusé en plus dont on voyait que l'avocat, comme d'ailleurs l'avocat des parents, était d'une immense dignité et qu'il n'y avait aucune volonté d'être dans l'artifice ou dans la manipulation. Ces avocats ont chacun exprimé ce qu'ils pensaient de cette affaire avec beaucoup de dignité, comme d'ailleurs la famille de la victime a gardé une dignité absolument admirable. Et tout à coup, on voit cette irruption d'un propos qui est un propos politique et qui utilise ce fait dramatique pour porter une cause et qui décide de faire coller cet événement.
Vous parlez du fait dramatique, à savoir
le meurtre d'Alexia Daval. Qui est une histoire profondément singulière dont nous ne savons pas encore les tenants et les aboutissants. Tout cela relève d'une enquête. Rien n'est aujourd'hui totalement sûr et nous n'avons pas à décider ce qui est ou ce qui n'est pas, et une politique n'a pas à le faire et n'a pas à interdire à un accusé de se défendre. Parce que finalement, c'est cela que fait Marlène Schiappa. Elle explique qu'il n'a pas à se défendre, pas de cette façon-là, pas en utilisant ces mots-là. Et c'est tout de même, je pense, une des premières fois où on entend un politique expliquer que l'accusé n'a pas à se défendre. Et je voudrais rappeler que dans l'affaire...
Et critiquer la ligne de défense
mais bien sûr,
suivie
par son avocat. Dans l'affaire Jacqueline Sauvage, c'était donc le mari qui avait été tué par Jacqueline Sauvage. Elle a d'ailleurs été condamnée deux fois, en cour d'appel également, par des magistrats. Eh bien,
avant d'être graciée par François Hollande.
Toutes les associations féministes avaient expliqué qu'il y avait un contexte qui expliquait ce meurtre, que c'était en fait elle la victime, etc. Là, l'avocat de Jonathan Daval n'a pas dit qu'il était en fait la victime. Il a juste voulu expliquer, selon lui, pourquoi on en arrivait là. Que ce soit vrai ou faux, peu importe, c'est son rôle d'avocat de faire cela. Mais simplement, à l'époque, on n'avait pas parlé de victim blaming, comme l'a fait Marlène Schiappa. Donc, je pense que chaque individu a droit à être défendu. Le chroniqueur judiciaire du Figaro, Stéphane Durand-Soufflant, qui est sans doute un des meilleurs connaisseurs
de ces
questions-là, a rappelé à cette occasion un fait essentiel. En France, on ne juge pas un crime, on juge un individu dans ses spécificités, dans son unicité, et c'est ça qui fait la justice.
Raphaël Glucksmann.
Je suis d'accord qu'elle aurait dû s'abstenir de commenter une ligne de défense ou une affaire en cours. Rappelons quand même que c'est paradoxal parce que les avocats eux-mêmes ont porté sur la place publique leur ligne de défense carrément live avant même la cour et que d'emblée c'est devenu une affaire publique. Mais c'est vrai, elle n'avait pas à faire ce commentaire. Je pense qu'elle réagissait à une tendance générale, en particulier dans les médias quand on parle de meurtre de femmes, tendance générale qui vise à faire porter une partie de la responsabilité sur la femme, dans les mots même qu'on emploie pour couvrir ce genre d'affaires. C'est a priori décrit comme des crimes passionnels, c'est a priori toujours en filigrane, sa femme le quitte, il la tue, et donc je comprends cet énervement sur le traitement médiatique, mais encore une fois, c'est vrai, on a aujourd'hui...
Quand elle dit qu'il faut parler de féminicide, est-ce que vous êtes d'accord avec la secrétaire d'État ?
Encore une fois, si c'est pas pour commenter un cas spécifique qui est devant la justice, elle parle de féminicide, c'est-à-dire de meurtre des femmes, de femmes tuées, et c'est vrai que c'est un problème en France immense, le nombre de femmes qui sont tuées, et donc il y a, comme ça, une attitude dans la société qui conduit au fait qu'une femme quitte un mari, il la tue, ou il y a un danger réel qui pèse sur les femmes. Donc elle a le droit de s'exprimer là-dessus, c'est même son portefeuille, simplement, elle n'a pas le droit de commenter une ligne de défense là-dessus, je suis d'accord.
Le fait que vous citez, par exemple, sa femme le quitte, il la tue, donc on n'aurait pas le droit d'écrire ça, pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comprendre, c'est déjà excuser ?
Non, comprendre, c'est pas excuser, mais vous voyez, si vous ne voyez pas que dans les manchettes des journaux, dans les titres, on réduit... souvent ces meurtres-là à une affaire quasi normale de donc.
Non, je ne vois pas parce que je ne le pense pas du tout.
Normal, ce qui est dramatique,
je ne le pense pas
c'est
du qu'il
une
moi, je
femme
pense que le traitement...
est tuée par son conjoint tous les trois jours en
voilà,
France.
Voilà, et oui. Que c'est une cause politique qui a un problème politique et social, et qu'une ministre en charge de ce sujet est en droit de s'emparer de cette cause-là et de faire part
mais
de...
Mais Nicolas Tacha, il s'agit de juger un homme et non pas
bien sûr,
un crime.
Mais c'est pour ça que je dis, là, elle a eu tort, simplement. Elle a soulevé, dans la suite de sa déclaration qui vous avait pas passé, un autre problème, qui est la manière dont on parle publiquement du meurtre des femmes en France.
Et
là-dessus, je pense
là,
qu'elle a raison et
faux.
Qu'elle est dans son rôle. Là,
et
elle est sortie de son rôle en commentant...
Je pense qu'il y a eu pendant très longtemps une façon, en effet, de, par exemple...
Cavalière.
De nier le caractère de victime des femmes violées. En effet, qu'il y a une manière de minimiser, mais je ne pense absolument pas qu'aujourd'hui, nous soyons encore dans le cas où, dans un meurtre de femme, on tente de minimiser. Ce n'est pas vrai. Et l'affaire Jacqueline Sauvage nous le prouve. C'est même, au contraire, quelque chose qui soulève les foules.
Et puis, il y a évidemment le problème soulevé de la séparation des pouvoirs, et elle a été rappelée à l'ordre par nombre de ses collègues du gouvernement et Castaner, le patron de La République En Marche. Dans l'actualité, aussi Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui est accusé par une femme d'un rapport sexuel contraint. L'avocate de la plaignante évoque un viol par surprise. Vous vouliez y revenir,
non, moi je veux revenir,
Raphaël Glucksmann.
Je veux revenir sur une question qui est extrêmement délicate et qui touche exactement le même problème que celui qu'on a abordé au début de l'émission, qui est celui de notre capacité à réagir à des cas judiciaires. Et donc là, il y a une enquête préliminaire qui est diligentée pour des faits graves. Mais à mon sens, le fait de demander une démission à partir d'une enquête préliminaire, eh bien, ça crée un précédent qui est extrêmement dangereux.
Ce qu'a fait Laurent Wauquiez, par exemple.
Mais oui, mais c'est pour moi un précédent extrêmement dangereux. Alors, je dis ça avec d'autant plus de facilité que je n'éprouve absolument aucune sympathie pour la ligne politique de M. Darmanin. Mais c'est un cas extrêmement dangereux parce qu'une enquête préliminaire est quasi automatique à partir du moment où il y a un dépôt de plainte. Donc, la règle qui veut qu'un mise en examen doive démissionner, à mon avis, est une bonne règle. Mais réclamer une démission d'un responsable politique à partir d'une enquête préliminaire, qui n'est pas donc mise en examen, on verra dans les jours qui viennent s'il est mis en examen, dans les semaines qui viennent, mais c'est extrêmement dangereux potentiellement. Et moi, j'ai parlé avec maître Henri Leclerc de ce cas, et il dit il y a un problème qui est que spontanément, on est du côté de la victime, évidemment, mais que si on s'autorise...
De la plaignante, donc.
De la plaignante, de la victime potentielle. Si on s'autorise à exiger la démission d'un responsable politique pour cela, on va se précipiter dans une instabilité politique permanente. Et c'est un réel danger pour notre démocratie. Alors donc, je suis à la fois choqué par la demande de démission et choqué aussi, puisque les faits sont si graves, que l'ensemble des députés de La République En Marche aient décidé de faire une standing ovation à M. Darmanin.
Natacha Polony.
Oui, la standing ovation n'était peut-être pas absolument nécessaire en l'occurrence. Et encore une fois, il vaut mieux attendre que les choses soient jugées. En revanche, alors premier point, en effet, il n'aura échappé à personne que les membres des Républicains ne sont pas aussi promptes à demander des démissions quand il s'agit d'affaires judiciaires qui concernent leur camp. Donc bon, je veux dire, leur demande même du coup... Est
ça, c'est une attitude largement partagée par les différents partis politiques.
Oui, mais là, ça devient quand même grotesque. Simplement, je pense qu'il y a encore là une autre dimension qui est celle du contexte de cette histoire. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est aussi le récit qu'en a fait le journal Le Monde, en expliquant que c'était, par exemple, Caroline de Haas qui avait expliqué au mari de la plaignante quel était l'acte qu'elle avait subi. C'est-à-dire que, en gros, ce que raconte le journal Le Monde, c'est qu'elle lui demande « Mais votre femme a-t-elle l'impression d'avoir été violée ?» Il dit « Bah non, non. » Et elle lui dit « Eh bien si, c'est un viol. » Et c'est elle qui a incité et qui explique pourquoi. Et là, j'avoue que ce genre de choses me surprend, m'étonne, et que je pense qu'il va falloir réfléchir beaucoup au rôle de certaines associations féministes, de certaines militantes féministes.
Mais là, vous rentrez dans l'affaire. Tendance...
Oui, je rentre dans l'affaire. Non, je ne rentre pas dans l'affaire, je rentre dans le rôle précis d'une forme de militantisme subventionné qui vit véritablement de ce genre de choses. Et là, j'avoue ma perplexité.
Non, mais Raphaël Glucksmann. Là, vous avez fait dévier le débat. C'est-à-dire que le débat, c'est celui de la présomption d'innocence. Ensuite, qu'il y ait des associations féministes qui aident des femmes potentiellement victimes à pouvoir qualifier ce dont elles se sentent être victimes, je ne vois pas, moi, où est le problème. Le problème, pour moi, vient quand on exige la démission d'un responsable politique avant même qu'il soit mis en examen sur le simple déclenchement d'une enquête préliminaire. Mais ensuite, que des associations féministes aident des femmes qui se sentent victimes de quelque chose qu'elles ne nomment pas à formuler clairement leurs sentiments, ça ne me semble pas être un problème.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Dans l'actualité de la semaine aussi, la grève des personnels des EHPAD, les établissements pour personnes âgées, manque de moyens, conditions de travail infernales, impossible souvent d'accueillir dignement les résidents. Voilà ce qu'on pouvait entendre et lire parmi les mots d'ordre. Écoutez ce qu'en disait Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Il était au micro de Nicolas Demorand.
Moi, tous les salariés, les travailleurs des EHPAD que je rencontre, ils me disent à la fois qu'ils sont fiers de travailler dans un métier utile auprès des anciens, auprès des personnes âgées, mais en même temps qu'ils se sentent une forme de culpabilité. Culpabilité de ne pas pouvoir faire bien leur travail, de faire subir une forme de violence institutionnelle.
Raphaël Glucksmann, vous teniez à vous arrêter sur cette grève et sur ce qu'elle révélerait de notre société.
Ouais, je pense que ça interroge les fondements mêmes de notre société. On est une société individualiste et notre rapport à l'humain est un rapport fondé sur une logique quasi-capitaliste. Alors, on comprend pourquoi on doit se mobiliser pour, je cite, entre guillemets, investir sur les enfants parce que c'est un investissement sur l'avenir. Mais là se pose une question qui est une question qui vraiment nous interroge de manière extrêmement profonde. La question du traitement, de la solidarité que nous devons à nos aînés. Et là-dessus, il y a, à mon avis, un manquement extrêmement profond des pouvoirs publics dans leur capacité à appréhender ce que représente la solidarité humaine.
Pourquoi ?
Pas parce que les moyens ne sont pas dégagés. On ne dégage pas les moyens qu'il faut. On est capable de les dégager pour faire plaisir aux plus riches d'entre nous, mais on n'est pas capable de dégager les moyens qu'il faut pour s'occuper de nos aînés. Et nous avons des êtres qui sont dans une logique capitaliste complètement inutile et improductif, et donc on n'investit pas sur eux, parce que c'est ça la logique, c'est l'investissement. Eh bien non, une société, ça se construit sur des solidarités qui échappent aux logiques d'investissement. Et donc la question qui se pose à nous, qui est une question extrêmement profonde, nous avons un vieillissement de la population, est-ce que nous sommes prêts à laisser crever nos aînés dans de telles conditions ? Ou est-ce que nous allons construire une véritable solidarité, mettre les moyens pour, pas pour faire des choses folles, juste pour rattraper ce que font déjà, par exemple, nos voisins allemands ou scandinaves ?
Je pense que le problème va même plus loin que cela, parce que ça révèle notre rapport d'abord à la mort et à la déchéance que nous ne voulons surtout pas voir. C'est-à-dire que, en effet, nous sommes dans une société qui est une société fondée sur l'idéologie de la performance, sur l'idéologie de la rentabilité, bien sûr, et du coup, ces êtres ne sont pas rentables. Et la seule façon que nous avons de répondre aujourd'hui collectivement à ce problème de la vieillesse, c'est de fantasmer sur le moment où nous allons vaincre la mort. Google nous semble la réponse acceptable à la question des mouroirs que nous avons organisés. Et c'est d'autant plus vrai que nous sommes incapables de comprendre ce que ces personnes âgées nous apportent, également parce que dans cette idéologie de la performance, il y a aussi cette idéologie de, selon laquelle tout ce qui arriverait d'un monde ancien serait forcément moins bon que ce que nous sommes capables de produire aujourd'hui. C'est-à-dire un dévoiement du progrès vers une mythologie du progrès.
Le progrès est bon, mais c'est aussi une dissolution des solidarités familiales, puisque les personnes âgées ne restent plus dans les familles.
C'est aussi cette idée
de moins en moins, mais sont confiées à des établissements.
C'est cette idée que le monde qu'ont construit ces personnes ne vaut rien finalement, puisque nous allons de toute façon inventer un monde qui vaut bien mieux. Donc nous ne leur devons rien. Et c'est cela aussi qui est derrière.
Mais c'est vrai ce que vous avez dit, Ali Badou, et c'est pour ça que ça nous interroge chacun d'entre nous très profondément. C'est nous avons des sociétés qui ont énormément progressé, mais nous avons dans le même temps dissous des liens de solidarité ancestraux. Et donc comment nous réagissons à cette dissolution-là ? Vous savez, l'Occident peut se targuer d'avoir permis des avancées extraordinaires pour le genre humain. Quand même, une chose qui est assez marquante, c'est que quand on va dans des pays beaucoup plus pauvres que les nôtres, eh bien, leurs aînés ont des conditions de vie par rapport au reste de la population bien meilleures, parce qu'il y a ces solidarités familiales qui permettent justement la prise en charge des gens qui deviennent, entre guillemets, improductifs ou inefficaces, pour reprendre votre logique, ou imperformants. Et donc, il y a là une interrogation fondamentale. Alors, on ne va pas revenir, c'est impossible de décréter le retour en arrière aux solidarités familiales, mais dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est une solidarité collective de la nation en tant que telle, qui s'exerce de manière réelle et véritable, ce qui suppose des choix budgétaires, des priorités qui soient établies, et surtout, à mon avis, un discours et une philosophie, une approche entièrement différente.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, disait « Arrêtez l'EHPAD bashing. Dans la plupart des établissements, les résidents sont malgré tout traités avec dignité. »
Oui, mais il y a 0,6 personnels soignants par patient en France. Ils sont 1 en Scandinavie et quasi autant en Allemagne.
Je pense surtout qu'il faut réfléchir aussi à la façon dont nous risquons, hélas, de régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, les compagnies d'assurance sont en train de réfléchir à ça. Et la réponse qu'ont trouvé ces compagnies d'assurance, c'est de dire qu'il faut que chacun capitalise pour lui-même. Et que donc, par exemple, là, ça va bouleverser le droit de la propriété, puisqu'ils vont inventer des espèces de contrats de viager, où en fait, chaque personne âgée vendra son bien immobilier, sa maison de famille, pour payer sa propre dépendance. Et donc, dans la transmission entre les générations, dans la façon dont nous allons construire le lien, parce que, hélas, le matériel nous raconte aussi le lien affectif, c'est vrai, eh bien, en fait, nous allons aller vers toujours plus d'individualisme, cet individualisme que vous pointiez, Raphaël, et dans la façon même dont on va organiser financièrement ce problème-là, on va vers encore plus d'individualisme. Donc, en effet, il faut au contraire penser une solidarité entre les générations, une solidarité nationale également, et c'est urgent.
Qui est la base du système de sécurité sociale
français. Oui, mais c'est pas vers ça qu'on se dirige.
Et donc, ce qu'il faut, c'est le préserver, mais ce que ça suppose, mais c'est vrai que ça suppose quelque chose, parce qu'il y a un vieillissement de la population, il y a de plus en plus de vieux dans la population française, et donc, ça suppose un effort de solidarité. Et cet effort de solidarité, il doit être expliqué, pensé, et il se fera peut-être au détriment d'autres dépenses, au détriment, par exemple, de certains allègements fiscaux au profit des plus riches. Il y a des choix à faire, et ces choix diront énormément et disent déjà énormément du type de société dans laquelle nous voulons vivre.
Vous dites ça parce que vous vieillissez ?
Je dis ça parce que
parce que nous
vieillissons vite.
Mais regardez, ce qui est fou, en fait, c'est que je vieillis, mais la crise de l'empathie dans notre société fait que je ne m'imagine pas être à la place, spontanément en tout cas, à la place de ces vieux que l'on laisse crever dans des conditions indignes. Et donc,
mais
ce qu'il faut, c'est faire
tout
un
effort. Notre société est fait pour nous faire oublier que nous sommes mortels et que nous allons vieillir.
Et que surtout, on ne puisse pas se mettre à la place de l'autre. Or, l'autre, c'est moi plus tard. Et ça, c'est un effort qu'il va falloir faire. Et c'est, encore une fois, dommage, je pense, que le gouvernement ne saisisse pas de ce moment pour lancer ce débat et cette discussion, mais dans un sens très différent d'une individualisation toujours plus grande et toujours plus forcée.
Vous venez de le faire à l'antenne de France Inter. Notre invité, celui qu'on va accueillir dans un instant, récuse l'idée que l'individualisme aurait gagné contre les solidarités collectives. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec lui. Le grand face-à-face de France Inter continue jusqu'à 14h.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
La France a-t-elle un problème avec ses élites? C'est devenu un refrain, la haine des élites. Elle parcourt le débat public, elle nourrit les populismes. C'est l'une des analyses que fait Alain Minc dans son dernier livre. Avant de l'accueillir et d'ouvrir le débat, écoutez cet échange. C'était il y a une dizaine de jours sur le plateau de l'émission politique sur France 2. Alain Minc était face à Laurent Wauquiez.
Bloch est un historien français qui a analysé au lendemain de la défaite terrible de la France au début de la Seconde Guerre mondiale ce qui s'était passé. Et il a très clairement montré qu'au fond, les élites françaises avaient capitulé, qu'elles avaient refusé de regarder les yeux dans les yeux la réalité de ce qui était en train de se passer dans le pays. Eh bien, je crains qu'aujourd'hui, toute une partie des élites françaises, notamment politiques, peut-être une partie d'entre vous et de vous-même, Minc, ont refusé de regarder ce qui se passait dans le pays et ont laissé petit à petit la France se détricoter.
Bonjour Alain Minc.
Bonjour.
Et bienvenue, vous publiez une humble cavalcade dans le monde de demain chez Grasset. Quand on vous dit que vous êtes un représentant de l'élite, vous le prenez comme une insulte?
Pas du tout, mais venant de Wauquiez, je souris, puisque je pense que Wauquiez est l'expression parfaite des élites méritocratiques françaises. Et d'ailleurs, dans ce pays qui est supposé détester les élites, le président de la République est un élève de Ricoeur et un intellectuel. Le Premier ministre écrit un bouquin sur les bouquins qu'il aime. Le chef de l'opposition est un major de Normal Sup et de l'ENA. Je trouve que pour un pays anti-élitiste, c'est un peu étrange.
C'est un sujet qui revient dans votre livre. Vous dites que les élites, c'est un bouc émissaire, un coupable idéal. Malgré tout, l'accusation que vous apportez Laurent Wauquiez est lourde, parce que dans l'étrange défaite,
vous avez oublié la deuxième partie. Vous avez oublié la deuxième partie, parce que je lui ai rappelé quand même que Marc Bloch était l'inventeur du en même temps.
Oui.
La cathédrale, le sacre de des Reims. Rois à Reims et la fête de la Fédération.
Et le cœur qui vibre à ces deux événements. Malgré tout, il vous accusait quasiment d'avoir trahi le peuple, vous représentant l'élite.
Mais ça, c'est un vieux débat. Le peuple et les élites, je l'ai eu plusieurs fois avec Natacha Polony. En 2005, on a dit « le peuple a gagné contre les élites ». 55-45.
Au moment du référendum européen.
Si les élites représentent 45% d'un pays, c'est formidable. Quel pays démocratique ? Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet est l'accès aux élites. C'est-à-dire, or, ce qui se passe en France, c'est qu'il est clair qu'aujourd'hui, le système est plus ségrégatif sur le plan social qu'il l'était quand moi je passer les concours des grandes écoles. Le nombre d'enfants d'ouvriers ou de classes modestes, parce que la place de la classe ouvrière dans la population française a baissé à l'école polytechnique, a été divisé par 3. Donc le vrai problème, c'est celui-là. C'est donc toute la question de la manière de traiter les enfants des banlieues défavorisées, de faire en sorte que ce dont j'ai bénéficié, moi je suis un produit de l'élite républicaine, puisse bénéficier au petit beurre. Le problème, c'est que la mesure que je trouve intelligente du gouvernement sur la division des classes par 2 dans les zones en difficulté, on saura si ça a marché, grosso modo, dans 15 ans, en fonction du nombre de petits beurres à l'X.
Natacha Polony. Oui.
Enfin, ne réduisons pas cela à la question d'abord du nombre de petits beurres à l'X et ensuite à une mesure de dédoublement des classes si nécessaire. Oui, oui, c'est ça. C'était une façon de dire que je la laissais à Alain Minc, cette expression-là. Mais c'est surtout, je pense que...
Parce que vous avez écrit vous-même dans votre dernier livre sur la place des élites en démocratie. Vous consacrez quelques lignes de votre livre à Alain Minc, à peine plus charitable que les mots prononcés par Laurent Wauquiez. Et c'est vrai que c'est une question intéressante à aborder, celle des élites.
Mais c'est une question cruciale. Pourquoi ? Parce qu'un pays ne peut pas survivre si ses élites se referment et s'il ne les renouvelle pas. Et surtout, un pays n'est pas démocratique quand il n'y a pas de possibilité de renouvellement et de respiration des élites. Et quand ceux qui sont en bas de la société, non seulement ont intégré l'idée que jamais ils n'appartiendront aux élites, que leurs enfants n'ont plus aucune chance d'y appartenir, mais surtout, quand ils ont intégré l'idée que ceux qui décident et ceux qui gouvernent ne le font pas en fonction des intérêts de la nation dans son ensemble, mais en fonction d'intérêts de classe. Donc c'est contre cela que nous devons nous battre, parce que cette sorte de, comment dire, d'abandon de tout espoir démocratique est profondément dangereux. Et donc il faut, je suis très frappée, Alain Minc, parce que dans votre livre, je trouve que, mis à part un rappel de la vieille dichotomie entre les démocrates et les républicains, cette question qui pour moi est cruciale de la démocratie et de ce que signifie aujourd'hui une société démocratique est finalement assez peu posée.
Écoutez, je crois que dans le premier chapitre, je dis que en termes d'inégalité, l'inégalité en matière de capital culturel, c'est un des rares points sur lesquels je me sens bourdivin, puisque c'est comme ça qu'il faut dire pour faire chic. Serait plus logique de dire bourdieusien, mais ça sonne mal.
Ça
se comprend mieux qu'en matière ne s'est jamais autant accru que maintenant.
Oui, en effet, vous faites même un mea culpa dans le début de votre livre perception des inégalités.
Non, mais pourquoi mea culpa? Je crois que j'écris, mais je comprends que vous n'ayez pas lu tous mes bouquins, il y en a beaucoup, mais là-dessus, sur ce sujet, je n'ai pas changé depuis 20 ans. Je pense que les
écarts... Mais là où Natacha a raison, c'est que les premières lignes de votre livre sont consacrées à un retour sur des livres précédents, justement. Est-ce que vous n'aviez pas vu venir,
je souhaite à chacun des intellectuels ici présents de faire tous les quelques années le même exercice de réflexion sur lui-même. Je pense une forme d'honnêteté intellectuelle. D'ailleurs, ce livre, je ne l'écris pas en tant que membre des élites économiques, financières ou autres. Je l'écris dans mes activités de week-end où j'essaye d'être modestement votre élève, c'est-à-dire de faire l'intellectuel amateur.
Mais vous portez le populisme, par exemple.
Mais bien sûr. Mais je pense donc que autant le capitalisme fabrique de plus en plus d'inégalités économiques et qu'il est très difficile dans un monde globalisé de les combattre beaucoup plus que l'Europe ne le fait. N'oublions jamais déjà qu'aux États-Unis, le 1% de la population plus riche prend en compte à son profit 25% du revenu national et 8% chez nous. En revanche, l'enjeu du capital culturel me paraît décisif, et de ce point de vue, je crois qu'on a régressé. Oui, là-dessus, il n'y a pas de désaccord entre nous.
Raphaël Glucksmann.
Non, là-dessus, on est d'accord. Moi, je pense que le problème, c'est pas tellement celui de l'élite, c'est du fait qu'on nous devrions avoir des élites. Et qu'il y a une collusion qui est forte en France, mais qui est forte aussi aux États-Unis, entre les élites économiques, les élites financières, les élites politiques, et que c'est cette impression justifiée de collusion qui remet en cause l'élite. Et il y a l'abandon par l'élite européenne et occidentale en général de la croyance que la politique est là pour transformer les sociétés, pour transformer la société. C'est en gros cette adhésion qui a eu lieu, qu'on le veuille ou non, au mythe de la fin de l'histoire et au fait que la loi du marché allait finir par résoudre les problèmes sans que nous ayons besoin de conflictualité politique. Et je pense que c'est cette vision-là qui est entrée en crise aujourd'hui. Mais c'est la vision qui a dominé dans les années 90, à la suite de la chute du mur de Berlin, et qui aujourd'hui est complètement battue en brèche par le surgissement qu'on peut qualifier de populisme et qui est en fait un rappel à la politique.
Écoutez, j'aurais compris tout à fait ce débat il y a un an. Je pense, mais je ne vous demande pas vos votes.
Il y a un an, pourquoi ?
Je pense qu'on a tous voté, j'imagine, j'ose espérer, pour un candidat qui, justement, même en étant issu de manière totalement visible des élites, on est issu, lui et moi, de la même matrice tellement élitiste et technocratique, a justement essayé à sa manière...
Vous parlez d'Emmanuel Macron et de l'ENA.
De l'inspection des finances.
Et de l'inspection des finances.
A essayé à la manière de réhabiliter la politique. Et je pense que dans l'expérience Macron, ce qui est intéressant, et on verra le résultat, c'est que comme en Espagne, chez Ciudadanos, ils retournent les armes du populisme contre le populisme.
C'est-à-dire... Justement, ce passage-là dans votre livre me semble très intéressant parce que, pour ma part, j'y ai vu une forme de cynisme assez incroyable. Puisqu'en fait, quand vous expliquez que qu'il faut retourner contre le populisme les armes du populisme, vous nous expliquez que finalement, que l'intérêt, et c'est d'ailleurs sans doute ce qu'a fait un peu Emmanuel Macron, c'est qu'il faut utiliser ce besoin de changement pour dire au peuple. Nous allons changer les choses, mais attention, on ne les change que sur une petite partie pour pouvoir perpétuer le même système. Donc c'est une façon, en fait, d'instrumentaliser l'aspiration de changement, l'aspiration au changement du peuple.
Je tombe des nues parce que je pense qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui ce débat comme nous l'avons eu, vous et moi, une ou deux fois. Pourquoi ? Je veux dire, le représentant éminent des élus a été élu par 64% des Français. Alors, vous allez me dire que c'est le peuple contre 36. Mais arrêtez de dire les circonstances. Vous étiez devant un choix. Le suffrage universel, c'est quand même l'expression populaire. Donc, je pense qu'en effet, ce débat, au moment où on sentait la montée très forte des... Je ne dis même pas les populistes des extrêmes de gauche, de droite, est un tout petit peu modifié par le choix des Français, ont eu fait quatre fois. Hein. Deux tours de présidentiel, deux tours
mais
de législative.
Là, on n'est pas en train, on n'est pas en train de remettre en cause la légitimité de celui qui a été élu et qui donc fait évoluer le débat, mais on peut s'interroger sur la nature de ce qui suscite ces rejets populistes ou extrémistes. Et dans ce qui suscite ces rejets populistes ou extrémistes, il y a effectivement le désir de changer une classe politique, de changer une élite politique, mais il y a aussi peut-être la remise en cause de visions du monde qui ne sont plus acceptées. Or, on peut s'interroger ensuite sur le, non pas sur la légitimité démocratique du président qui est issu des urnes, mais sur
la légitimité populaire.
De sa vie et populaire, bien
populaire,
sûr.
Populaire. Il a été élu par le peuple. Puisque vous aimez le mot
on
peuple.
Peut s'interroger quand même, même si peut-être que je suis minoritaire dans mon interrogation. On peut s'interroger sur sa vision, sur cette vision-là, c'est-à-dire sur l'idée, effectivement, avec l'exemple de Ciudadanos, qu'on peut sauver la démocratie du danger populiste en adoptant le désir de changement populiste, mais sans faire évoluer cette vision du monde qui a été rejetée. Et donc
mais rejetée par qui ?
À la Mac.
Mais
qui a été rejetée par exemple par les par Américains, par...
Non mais arrêtez.
Quoi,
rejetée par les Américains, que je sache, l'expression des élites américaines a eu 3 millions de voix de plus que M. Trump.
Mais d'accord.
Vous allez pas me dire que le système électoral... Mais non, rejetée par qui ?
On a une montée de l'extrême droite absolument partout en Europe. On a une démocratie à nos portes en Italie qui va connaître des élections où le moins qu'on puisse dire, la stabilité social-démocrate du pays n'est pas assurée.
Elle n'a jamais existé.
Et on a une abstention à près de 60%
on a une grève civique
des élections législatives.
Donc pas tous en même temps.
Je veux dire, vous avez un constat dans votre livre qui porte sur la gravité de la situation, sur la gravité d'une situation où les démocraties libérales sont en crise. Et après, quand
laissez Alain Minc vous répondre,
Raphaël. Ce que je pense, moi, c'est qu'en fait, il n'y a pas que l'élite politique qui est rejetée. Il y a une vision du monde, une structure de la société qui entre en crise.
Mais pour comprendre votre différent, Alain Minc, il faut rappeler que vous dites que le populisme se nourrit d'un fantasme, le peuple.
Oui.
Comme si le peuple,
je pense profondément que je crois beaucoup plus aux classes sociales qu'au peuple. Je ne sais pas ce que c'est que le peuple. Si on me dit que le peuple, c'est l'addition des électeurs de Mme Le Pen et de M. Mélenchon, mais que les gens qui ont voté Macron, Fillon, Hamon ou autres, ce n'est pas le peuple, je ne comprends pas ceci. Je suis beaucoup plus marxiste que vous. Le peuple.
La volonté du peuple, ça n'existe pas.
Mais la volonté du peuple, elle a été marquée, ça s'appelle le suffrage universel.
Si vous oubliez le caractère polysémique du mot peuple.
D'une certaine façon, le peuple est le moyen de nier les classes sociales. Vous n'êtes pas assez marxiste les uns et les autres.
Au contraire, je suis certainement beaucoup plus marxiste que vous, dans le sens où je sais
que... On est en 2018 et vous débattez pour savoir qui sera plus marxiste que l'autre.
C'est tout à fait sympathique, mais simplement, encore une fois, il faut rappeler que le mot peuple a plusieurs acceptions et que c'est l'articulation entre ces différentes acceptions qui permet de penser non seulement ce qu'est le peuple, mais ce qu'est la démocratie. Mais ce qui me frappe dans votre façon, et je rejoins totalement Raphaël sur cette idée de l'idée qu'il ne suffit pas de changer le personnel politique et que la question est de changer un système économique et une vision du monde. Or, il me semble que quand vous vous émouvez tout à fait de façon... tout à fait juste de voir que, par exemple, la destruction de l'ascenseur social et de l'éducation empêche les plus pauvres aujourd'hui de monter dans la société. Vous oubliez qu'il y a eu là aussi une instrumentalisation. C'est-à-dire que En gros, on a pu casser tout ce qui permettait aux élites de se renouveler parce que les élites qui tenaient le pouvoir ont utilisé un langage de chantage. C'est-à-dire pour maintenir le système économique... Oui, un chantage implicite. Pour maintenir le système économique, il y avait cette accusation immédiate. Si vous n'aimez pas ce système, c'est que vous êtes raciste, c'est que vous êtes pour le repli nationaliste, que vous êtes populiste.
On a compris
et
l'argument.
C'est vrai dans tous les domaines, dans l'éducation comme dans l'économie.
Ce système économique... Quand il fonctionne bien, j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi vous le critiquez. Quand il ne fonctionne pas bien en France, sur le plan de l'emploi, vous trouvez que ce système économique tel qu'il fonctionne dans les pays scandinaves ou en Allemagne vous pose problème ? Pas de chômage, un État-providence qui fonctionne, une mobilité sociale raisonnable, il est parfait ce système économique, car ce sont les pays les plus ouverts au monde. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre le progrès en tant que tel d'une société et la globalisation.
Je ne vais pas vous sortir le taux de pauvreté, notamment des retraités allemands, mais je devrais le faire.
Écoutez, vous connaissez un système, vous connaissez l'un ou l'autre, un système économique dans les 50 dernières années, alternatif de l'économie sociale de marché, car on n'est pas aux États-Unis, qui a donné de meilleurs résultats. Alors, si vous voulez.
Et il faut penser globalement à la pauvreté qui est générée dans le reste du monde et à la destruction environnementale.
Vous n'allez pas être en quête de l'alternative qui n'a jamais existé. Dites, je n'accepte pas le taux de redistribution. Dites, pourquoi la redistribution n'est pas plus grande? Parce que les syndicats sont trop faibles, que vous considériez qu'il faut trouver les moyens de renforcer. Forcer les syndicats. Qu'une des raisons pour lesquelles la Rust Belt a voté Trump, vous savez pourquoi les usines sont parties de la Rust Belt ? Vous savez où elles sont parties ? Pas du tout au Mexique. Elles sont parties au Texas. Elles sont parties dans l'Arkansas parce que c'était des États non-unionized, comme disent les Américains.
Donc, il y avait pas
je comprends très bien ce discours, mais dire le système en tant que tel...
Raphaël, c'est qu'il y a à mon avis quelque chose d'extrêmement profond qui n'est pas simplement économique dans nos sociétés, c'est que l'individualisme a ébranlé toutes les structures collectives. C'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés où il y avait des syndicats de masse, il n'y a plus de syndicats de masse, il y avait des partis politiques de masse, il n'y a plus de partis politiques de masse, il y avait un service militaire par exemple où les gens pouvaient se croiser et avoir le sentiment d'appartenir à un même peuple au sens constitutionnel du terme et où ça n'existe plus. Et donc on a quand même une crise de sens extrêmement profonde de là. Et en ce sens-là, les élites ont trahi parce qu'elles ont autorisé la disparition de ces structures collectives qui permettent de se sentir appartenir à un projet collectif.
Non, premièrement, si les contre-pouvoirs sont simplement l'effet de la bonne volonté des élites, comme Louis XVIII a octroyé la charte aux Français, ça me paraît une étrange vision de la dialectique. Deuxièmement, en France, vous avez raison, l'effondrement des syndicats n'est pas le choix des élites. En revanche, je pense qu'il y a des moyens d'aider à une resyndicalisation que l'on n'a pas suivi. Troisièmement, quand vous voyez qu'en Allemagne, l'IG Metall est en train de bloquer le système économique, ça veut dire que les syndicats n'ont pas disparu. Pourquoi ? Partout. Donc la vraie question, par rapport au fonctionnement harmonieux qui existe parfois et souvent de l'économie sociale de marché, c'est pourquoi la France s'est écartée de ce modèle-là. Ça, c'est un vrai débat.
Et vous critiquez d'ailleurs l'idée que l'individualisme aurait gagné contre les solidarités collectives, ce que pense profondément
Raphaël
Glucksmann.
Je vais faire un pronostic qui sera démenti dans les faits, c'est le charme des pronostics. Je pense que à cause des droits des universités américaines, vous allez avoir un mouvement de solidarité porté par la jeunesse américaine qui amènera la gauche, c'est-à-dire la gauche du Parti démocrate au pouvoir. Et ça sera une solidarité classique.
Revenons en France. D'abord, Raphaël Glucksmann, j'aimerais juste qu'Alain Minc nous explique, parce que vous l'avez qualifié de rouge tout à l'heure, et c'est pas par hasard, puisque vous dites qu'on voit les symptômes d'une vague qui gronde, d'une frustration qui bouscule une génération, qu'on vivrait dans un climat pré-68.
Oui, enfin, c'est pas pré-révolutionnaire, vu ce qu'est devenu 68.
C'est ce que j'allais dire, c'est quand même très mesuré, comme révolution.
Mais je crois qu'aux États-Unis, ce qui se passe chez les jeunes, qu'évidemment les palinodies de Trump accentuent, peut mener à une espèce de 68 bis, mais avec des revendications très précises. Je ne sais pas.
Mais il y a.
Raphaël Glucksmann, puis Natacha Polony.
Pour moi, cette crise qui est.
Il nous reste peu de temps, donc des interventions courtes.
Qui s'exprime de manière encore plus radicale aux États-Unis parce que le système individualiste a été plus poussée aux États-Unis que dans le reste de l'Occident, mais cette crise, elle traverse l'ensemble de l'Occident. Et donc oui, je pense qu'il y aura une remise en cause profonde, non pas simplement du personnel politique, mais de la structuration de notre, d'une société. On ne peut pas faire une société...
La remise en cause du personnel politique, ça s'est fait.
Oui, on peut, oui. Mais ça ne suffit,
oui,
pas.
Ça suffit pas.
On ne peut pas faire une société si les gens ne se croisent pas, s'ils n'apprennent pas qu'il y a quelque chose qui les dépasse.
À la main.
Oui, mais sauf que ça, c'est une logique qui...
Vous êtes trop loin du micro,
ans.
À la main.
Non, mais, là, mais là-dessus, nous n'avons aucun désaccord. Je pense simplement que dans les pays européens continentaux, l'Angleterre est un cas très particulier, beaucoup plus proche des États-Unis. Dans les pays européens continentaux, c'est nous sommes écartés du modèle dominant et la question, c'est comment on y revient.
Non, la question n'est pas qu'il y ait un modèle dominant dont vous semblez considérer qu'il est parfait. La question à se poser est de savoir...
Je vous ai si vous en connaissez un autre, vous ne m'avez toujours pas répondu.
Oui, j'en connais un, parce que justement, la caractéristique de votre ouvrage, c'est qu'en effet, il évacue toute possibilité de penser une alternative. Donc, vous nous expliquez en permanente que ce que rien d'autre n'est possible qu'une société consumériste, fondée sur un libre-échange qui finalement détruit tous les liens de solidarité dont parle Raphaël, et qui détruit petit à petit... Ça détruit les structures culturelles, les structures de solidarité et tout le sens que vous pouvez construire dans une société.
Vous ne pouvez pas dire ça. L'Allemagne...
Si, je peux.
D'une certaine façon...
C'est la beauté d'un débat.
Et si nous avions le temps, je vous expliquerai plus largement pourquoi.
L'Allemagne est ouverte à 40%, nous sommes ouverts qu'à 20% au commerce extérieur. Il n'y a pas de pays plus globalisé que l'Allemagne. Elle est, de ce point de vue-là, beaucoup plus collective que nous. Vous avez l'un et l'autre une culture suffisamment profonde, et vous le savez bien, pour penser qu'il y a des pesanteurs historiques, qu'il y a des traditions, que la social-démocratie allemande n'a rien à voir avec le socialisme d'appareil français. Mais j'attends que vous me démontriez comment se fait-il que le pays le plus globalisé d'Europe est le pays le plus solidaire d'Europe ?
Raphaël,
parce qu'il a maintenu,
il reste très peu de temps.
On pourrait maintenir cette conversation parce qu'en effet, il y a des spécificités du capitalisme allemand qui ne sont pas les spécificités françaises. Un capitalisme familial qui a gardé des valeurs plus anciennes.
À regarder aussi ce qui se passe en Allemagne, parce que c'est pas fini l'histoire, et que la social-démocratie allemande est dans une crise extrêmement profonde. Il s'effondre d'élection en élection.
Elle a été remplacée par la CDU, alors évidemment.
Et qu'une tendance de plus en plus populiste réactionnaire s'affirme au sein de la CDU. Elle aussi, Angela Merkel, n'est pas éternelle à la main. C'est un désastre pour beaucoup, mais c'est une vérité. Et la démocratie allemande n'échappera pas à la crise, parce que c'est une crise qui touche absolument toutes les démocraties libérales aujourd'hui.
Alain Minc, vous aurez le dernier mot. Un mot pour nous convaincre qu'il faut des élites, même en démocratie.
Mais non, mais attendez, ici, nous arrêtons d'être ridicules. Nous sommes l'expression tous les quatre des élites. Alors,
oui, mais nous n'avons pas la même vision du rôle des élites.
Votre pronostic à vous, c'est que vous serez plus installé encore que vous ne l'êtes déjà dans les élites en considérant qu'elles doivent disparaître. C'est très intelligent, mais je ne suis pas sûr qu'on ait dit.
Natacha, malheureusement. C'est loin d'être la fin du débat, mais c'est la fin de l'émission.
Faire croire que les autres sont cyniques pour cacher votre propre cynisme ne me semble pas tout à fait élégant, Alain Minc.
C'est à l'invité qu'on donne le dernier mot, Alain Minc.
Non, mais non, je pratique une chose qui est désormais interdite, la galanterie, et je laisse le mot de la fin à celui qu'a eu Natacha Polony.
Alain Minc, une humble cavalcade dans le monde de demain, c'est publié chez Grasset. Merci d'avoir été notre invité, Natacha et Raphaël. À la semaine prochaine, merci à Ophélie Vivier. Merci. Réalisation Marion Lelay, à la technique Théo Gomard, à suivre Zoé Varier et sa journée particulière. Merci.